Vous écoutez
RMC.
Ce soir, les amis, attention, un grand retour. Le retour du fils prodigue. Un grand ami de l'after est avec nous. Il nous a lâché en 2020 pour un petit club, un petit banc, l'AS Monaco. Damien Perrinel est dans l'after. Salut Damien.
Et bonsoir à tous.
Oh, le retour de Damien Perrinel.
Ça fait bien plaisir de vous retrouver en tout cas.
On est content de t'avoir avec nous. Je rappelle quand même, pour ceux qui nous ont rejoints il y a quelques mois, quelques années seulement, Damien, c'est parti de la bande, toujours hein, de l'after pendant des années, avant de mener sa carrière d'entraîneur à Monaco. 6 ans à la Turbie, adjoint d'abord.
Adjoint de Kovac.
C'est ça,
Peter. Philippe Clément.
Tu as pris en main la réserve de Monaco, puis après adjoint numéro 1, Kovac.
Et après
Clément.
Après Adi.
Uter.
Et Pocognoli.
C'est celui qui a résisté à tous ces gars.
Puis ça fait beaucoup de Belges.
Hein. Survivant à la fin, il en restait un. Voilà.
Cela dit, le simple fait de, on le dit souvent, mais de survivre alors qu'il y a des changements de coach, c'est plutôt c'est positif pour toi. Parce qu'ils peuvent arriver avec un staff à eux, ils peuvent dégager tout le monde.
De survivre dans un club comme Monaco, où l'exigence est très haute. Bah non, bien sûr que c'est une fierté. Et puis de pouvoir amener même ses compétences à de nouveaux entraîneurs, à de nouveaux staffs, c'est un plaisir, c'est valorisant, je trouve.
C'est valorisant. Pourquoi tu quittes Monaco? Tu vas en parler dans un instant, bien sûr. Tu es enfin libre de tout nous dire. Tu vas balancer sur l'ESM. Je plaisante, Damien. On a des questions à te poser quand même sur les 4 coachs. Tu nous diras lequel t'as le plus impressionné.
Il y a un côté, Nico, comme on est très US, là, avec Maxime.
Attends, mais Maxime Giannou est the new Damien Perrinel.
C'est incroyable, on est en New York.
Elle est
cheveux, moi.
Mais c'est pas le même club, c'est ça? Vous étiez pas dans le même club?
Non, moi j'étais dans le meilleur. J'étais dans le bon.
Il était dans le nouveau riche surtout.
Bah, voilà. Quitte à être intelligent.
C'était quoi, toi? T'es New York FC?
Ouais, c'est ça, les bleus.
Red Bull.
Red Bull. Voilà. C'est les galaxies, Damien. C'est
on se retrouve tous au baratin quand même, malgré tout.
Ah, tiens, on en parlait.
Voilà.
On bouge pas. On en parle dans 10 jours.
On sera New York dans une semaine.
On en parle dans 10 jours. Tiens, c'est vrai. Qui a fait la meilleure carrière? J'aime bien mettre de l'ambiance là. Maxime, Damien,
tu vas plomber là.
Damien, t'as quoi? T'as 11 matchs en Ligue 1, je crois, c'est ça?
Ouais, Max a une carrière plus
plus Jupiler League, hein, plus belge, hein, et international aussi.
À Ajaccio, t'étais en Ligue 1, c'est ça?
Non, Ligue 2 pour le coup.
Ligue 2.
Bah, tu vois, il
puis international, Luxembourg.
Non, ouais, bah, j'ai un peu plus de matchs que toi, Damien, c'est tout.
C'est bien.
Non, je rigole. On va dire qu'on a une carrière égale.
On a une équipe de l'after, ça fait une bonne charnière.
Une excellente charnière, t'as raison.
On n'allait pas très vite, lui et moi.
Perrinel, Chanou.
C'est le ballon, nous, c'est ça.
Ouais. Bah, toi, surtout. Ouais.
Et vous avez fait une longue carrière, en tout cas, tous les deux, les gars. Et notamment
plusieurs fois.
Ah bon?
Ah, bah, évidemment. On a joué.
T'es en Ligue 2?
Maintenant, MLS pour le
coup. MLS aussi, d'accord.
Peut-être même en Ligue 2. Ouais, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, en MLS.
J'ai mentionné dans un duel sur le
très bon joueur, Damien. Très, très bon joueur. C'était le Laurent Blanc des New York Red Bull.
Très bien. Alors, tu restes avec
nous. J'ai bien fait de venir.
Une heure, Damien Perrinel est avec nous. La saison ratée de Monaco, on va en parler. La double confrontation Ligue des Champions contre le PSG. Vous avez failli sortir le futur champion, double champion d'Europe en titre. L'évolution d'Ekliouche que tu as vu jeune, que tu as amené chez les pros, notamment à Monaco jusqu'au mondial désormais. As-tu cru en Paul Pogba? On te posera des questions comme ça. Est-ce que Golovin se fout-il du monde? On te posera la question également. Et puis, est-ce que le prince, il est sympa? Voilà parmi les questions qu'on peut te poser ce soir.
Est-ce que tu as eu réunion chez Riboloyev, pieds nus sur la moquette blanche?
J'ai pas eu ce privilège. J'ai pas eu cet honneur.
On m'a jamais trouvé quelqu'un qui est allé sur cette moquette.
Chez le président.
Pas qu'il a une moquette épaisse 50 cm.
Ah.
Le rêve.
Je suis d'accord pour enlever les chaussures quand on va chez quelqu'un.
D'accord. Même parquet?
Bon, si possible, ouais. Ça dépend où t'as marché avant, quoi.
Et tu mets, d'accord.
Tu peux prêter des mocassins.
Dans la deuxième heure de l'after, on aura également un invité, une figure de l'arbitrage fin 20e siècle, début 21e. Gilles Vessière sera avec nous. Il sort un bouquin, une autobiographie, plus de 350 matchs arbitrés. On va parler plein de questions à lui poser, hein, le pire entraîneur possible qu'il a saoulé pendant sa carrière. Le parking du Parc des Princes, l'épisode Luis Fernandez, notamment, qui lui bloque la sortie. On va revenir sur plein d'événements, notamment ce Lyon-Lens en 2002, match du titre qu'il a arbitré la finale du championnat de France. Ce sera une séquence revival. Et puis Emmanuel Macron a visé les sceptiques, les critiques au moment de l'arrivée de Lucien Riquet, dont tu faisais partie, Daniel. Tu veux lui répondre ce soir au président de la République? Voilà.
Dans la président de la République écoute l'after, mais j'ai l'impression qu'il a mélangé les années. Il savait pas de quelle année il parlait, parce que ça peut pas être de cette année.
Garde-en pour tout à l'heure, Daniel.
Elles étaient d'avant, et puis il les a visiblement pas toutes comprises, mais bon.
Tu mets la Marseillaise ou pas quand
En même temps, il est un petit peu fatigué. Le président, il est un peu en bout de piste.
Oui. ouais, il est en train de lâcher la rampe tranquillement. Et puis les infos OM menacées d'exclusion de Ligue Europa pour non-respect d'un accord avec l'UEFA. On en parle aussi dans la deuxième heure de l'after. Vous nous appelez au 3216, WhatsApp 0612 424 424 pour envoyer vos messages. Également, on est en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Vous le savez, le direct, c'est Roland Garros. Encore une surprise, un gamin de 20 ans peut-être en demi-finale de Roland. Eric Salio, bonsoir.
Bonsoir, une surprise. Ils se tiennent au classement ATP, hein. Mensik est 27, Fonseca est 30. Et c'est vrai que Fonseca a marqué les esprits en éliminant Djokovic. Il est mené 2-0, le Brésilien. Mais la réaction est là, puisqu'il vient de breaker d'entrée de troisième manche son adversaire. Alors, Mensik, ça peut être fabuleux. Et puis parfois ça pète un casque, et là il a pété un boulon puisqu'il vient de tenter un ace sur deuxième balle à 208. Ça lui coûte une double faute et donc un break. Est-ce que cette partie est relancée? On l'espère. Je rappelle quand même que Fonseca a effectué deux remontadas dans ce tournoi, donc jamais 203.
Okay, ce serait pour moi j'étais en train de me hyper Fonseca là. Et s'il perd ce soir, quelle déception.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a tous les Brésiliens là comme l'autre soir là,
Ah oui, avoir du mal à gratter des places, hein.
D'accord.
C'est pas évident maintenant, il y a plus vraiment de marché noir, tu sais, très bien, c'est compliqué de
Ah, parce que t'allais au marché noir, t'as un bel exemple.
Non, mais souviens-toi, il y avait des reportages, t'as les portes d'Auteuil, sortais de la liasse de billets.
Tu fais la promotion du marché noir.
En revanche, ça existe encore,
pas de problème, hein, Eric.
Ça existe encore, les anciens joueurs de la français qui revendent des places à invitation de la Fédé ou pas? Ça existe encore, ça?
Je suis pas au courant de ça.
T'es pas au courant de ça? D'accord. Ok. Eric, à tout à l'heure. Alors, Damien. 6 saisons à Monaco, pourquoi tu pars de Monaco? Pourquoi tu décides de quitter la Turbie? Région magnifique, t'as adoré la vie, hein. Nice, Monaco, Cap-d'Agde, superbe.
Magnifique région. J'ai du passage là-bas en plus, on voit du beau monde.
Tu vois du beau monde. Alors pourquoi tu pars de Monaco finalement après 6 saisons merveilleuses sur la Côte d'Azur?
Bah déjà 6 saisons, c'est vrai que dans un club comme l'AS Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette exigence du haut niveau, je trouve que c'est un beau parcours. C'est un club que bah, je remercie parce que pendant 6 ans, il m'a permis de me développer. En tant que coach, en tant que qu'être humain, il m'a permis aussi de voir plusieurs méthodologies de travail, de voir comment fonctionne un club de très haut niveau. J'ai pu aussi participer à des campagnes de Ligue des Champions, Europa League, en tant qu'entraîneur adjoint. Donc en tant qu'expérience, c'était vraiment vraiment bien. Mais sauf qu'à un moment, il faut voir aussi autre chose, se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, et puis assouvir une certaine ambition de se développer.
C'est-à-dire voilà. Quoi? Être numéro un jour, pas rester un éternel numéro deux, c'est ça?
C'est en effet, je pense qu'aujourd'hui, je me sens prêt à, peut-être, à être responsable d'un projet, et puis être à la tête d'une équipe, oui.
Et pourquoi pas à Monaco, d'ailleurs? T'as une expérience, tu connais pas mal de joueurs là-bas, les structures du club. Pourquoi ils t'ont pas un jour nommé numéro un? T'en as vu 4 défiler?
Parce que tout simplement, pour coacher un club comme l'AS Monaco, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience déjà.
Donc, on a vu des exemples de jeunes entraîneurs sans expérience qu'on a lancés. Évidemment, à Lyon, on pense à Pierre Sage. Il y en a eu d'autres. Digard est arrivé un petit peu comme ça, sans qu'on sache véritablement s'il avait l'expérience. Toi, c'est parce que Monaco était un trop gros club, que la direction du club voulait des têtes d'affiche un peu connues, ceux qui sont venus, moi, Uther, parce qu'il venait de Francfort, Niko Kovac avait été en Allemagne, au Bayern, Francfort, lui aussi d'ailleurs, il me semble qu'il avait été à Francfort, ouais. Niko Kovac. C'est parce que c'était la particularité du club qu'ils n'ont pas voulu faire confiance à un gars qui n'avait pas coaché avant?
Non, déjà, il faut avoir l'humilité, c'est que là, c'est un club qui est quand même en Ligue des Champions. Lors de cette saison, donc de lancer un jeune coach, ils ont déjà été très courageux. Je trouve qu'il faut leur donner ça, de lancer Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco, qui avait cette expérience lui aussi en début de saison de la Coupe d'Europe avec l'Union l'année dernière. Elle est champion avec l'Union. Moi, je trouvais ça vraiment bien que justement ils aient ce courage
de
mettre un jeune coach,
puisqu'ils le virent 6 mois après.
Ça a pas marché, peut-être pour différentes raisons, mais.
Mais comment ça peut marcher à Monaco? Est-ce que tu as réussi en 6 ans à percer le mystère monégasque? Aujourd'hui, j'échange avec un coach à qui je demande comme ça, Monaco, ça pourrait être branché. Il me répond, peut-être, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça, je l'ai souvent entendu, pas pour les bonnes raisons en parlant de Monaco. Comme pour certains joueurs, pas pour les bonnes raisons. Il y avait l'époque où les mecs y allaient à 35 ans en fin de carrière, les entraîneurs. À 18h, par exemple, où il est plus là, donc que tu confirmes ou pas, peu importe, je le dis, il est arrivé à Monaco, il est un peu devenu foufou à 18h, les grands restaurants, la Côte d'Azur, les yachts, les machins. Monaco, c'est très difficile à coacher. Damien.
C'est difficile à coacher, mais si on revient au constat sur les 6 saisons que moi où j'ai eu le bonheur d'être au club, c'est quand même un club qui finit 3e.
Mais sixième. Il y a des moyens, Damien, il manquerait plus que ça en prime.
Mais je veux dire, c'est un club qui a fait preuve d'une très belle régularité sur les dernières saisons.
Donc, il y a des moyens.
Et puis, il y a des moyens, mais tu as aussi beaucoup de contraintes dans le club de l'AS Monaco.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu n'as pas forcément beaucoup de revenus par rapport au stade. Ce qui fait par rapport à d'autres clubs,
À l'arrivée, t'as un top 3 budget en France.
T'as un mécène qui est en mesure de pouvoir mettre de l'argent.
Le mystère dont je te parle, c'est l'entraîneur qui n'arrive pas à motiver des joueurs sur toute une saison. C'est des joueurs qui ressemblent à des intermittents du spectacle. Pendant 2 mois, ils sont bons. Et puis, c'est un peu comme quand on fait la vanne. Dès qu'arrive le printemps, le casino, le café de Paris, la balade en yacht. Mais à l'arrivée, il y a des trucs qui sont vrais quand on dit ça.
Je trouve que c'est un cliché, un peu, sincèrement. Non, je trouve que c'est un cliché, cette histoire du au mois d'avril. Ça, c'est quand tu connais pas Monaco, ou alors que c'est peut-être ta première saison et que tout de suite tu vois deux Ferrari dans la rue et tu penses que t'es en vacances.
Oui, c'est ça.
Alors, mais non, parce que la réalité, c'est que là-bas, toute l'année, c'est ton contexte, c'est ton environnement qui est quotidien. Donc, c'est-à-dire que, à la fin, tu fais presque même plus attention et t'as ton objectif, c'est d'être, pour moi, sur le terrain performant. Et d'ailleurs, toi, je vais te dire, sur les dernières saisons, il y a toujours eu des séries qui ont été extraordinaires sur les fins de saison, là où justement, soi-disant, il y a beaucoup de distractions. Et puis pour terminer, je pense pas que l'AS Monaco est le seul club à avoir aussi des trous d'air parfois lors d'une saison.
Ça fait partie d'une saison
La question, c'est donc, t'as raison, moi je crois pas que ce soit lié au le fameux contexte émollient, tout ça. Bon. Au contraire, les Monégasques ont fait des matchs incroyables contre le PSG cette année. Enfin, toi, il y a eu des moments incroyables, des moments
ponctuels. On a l'impression qu'ils se motivent contre les gros.
Alors, en partie, effectivement, c'est une des questions. Donc, est-ce que c'est l'éternel truc qui finalement n'est peut-être pas assez impensif, le problème du manque de pression populaire? Est-ce que ça joue pas? Parce que dans plein d'environnements, quand même, ça peut être trop pressurisant comme à Marseille, mais ça peut être utile, une pression populaire. Parce qu'on a l'impression que les joueurs, finalement, comme dit Daniel, ils sont bien motivés contre le PSG ou dans certains gros matchs, puis beaucoup moins en Ligue 1 sur d'autres matchs.
La pression peut te galvaniser, peut te motiver, mais aussi, je pense que le calme peut aussi être bénéfique dans certains moments, dans certaines situations. Toi, je vais te prendre, on a une situation la saison dernière où on va jouer à Montpellier, qui est dernier. Et on arrive à perdre ce match contre Montpellier. Donc derrière, forcément, il y a une petite réunion avec les supporters, avec Adi. Ça se passe très bien dans la, c'est pas bon enfant, mais c'est dans le respect. Il y a une discussion. Et derrière, on a cette tranquillité qui nous permet, à la fin, de finir troisième.
Et puis, ce qui peut être un inconvénient, le manque de pression peut aussi être un avantage quand ça va moins bien, justement pour.
Et puis, alors, parfois, ça marche d'ailleurs. On peut pas se cacher. Non, mais là, je suis pas d'accord avec vous parce que vous vous cachez derrière l'environnement, mais ça voudrait dire que l'AS Monaco, si vraiment l'environnement était le problème, n'aurait jamais réussi. Il y a quand même eu des saisons, et je pense à la saison à Kylian Mbappé. Enfin, il y a quand même
Monaco fonctionne.
On ne va pas se cacher derrière l'environnement.
Non, mais c'est quelque chose qui sous-performe par rapport à ses moyens.
Non, en fait, c'est la qualité des gens.
Je dis qu'il y a des moments difficiles et que, effectivement, parfois, on a le sentiment qu'il y a des coachs qui arrivent un petit peu mieux à gérer tout ça et à motiver les joueurs en permanence. Et puis il y a eu des équipes extraordinaires ces dernières années à Monaco. Et parfois on se dit ils pourraient faire mieux, ils ont un gros budget. Cette année par exemple, c'est clairement un échec. Il envoie le podium, ils ont l'oseille pour le podium, ils finissent 7e.
Quand tu regardes ce groupe,
on va continuer.
Et moi, avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité, quand tu regardes ce groupe, il n'y a pas assez de qualité pour finir dans le top 3.
On va en parler.
Bien sûr.
Au début de la saison, par rapport à Lens, mais tu plaisantes, t'as Lamine Camara au milieu,
Zakaria. Tu peux finir top 3.
Mais bien sûr, tu plaisantes ou quoi?
On va te battre avec Benoît. Mais toi,
le truc, c'est que tu donnes ton sentiment à la fin de la saison quand t'as vu.
C'est pas ça. Tu dois prendre le contexte général.
Damien, tu vas nous répondre dans un instant justement à la question. Puis j'aimerais qu'on parle du travail de tes coachs.
Au début de la saison, sans Garay, personne ne sait qui va faire cette saison.
Les 4 coachs que t'as connus.
Mais on va parler également de l'OM, c'est devant.
Des individualités.
PSG, c'est devant.
Lyon, c'est jamais devant.
Allez, pause. Dans un instant.